tout le monde? Vous êtes en forme, on espère. Hey, Dieu merci. Hey, merci. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous vous rappelez du meilleur professeur que vous avez eu dans votre jeunesse? En hein, primaire ou secondaire? Levez la main si vous en souvenez, là, du meilleur professeur, quand même. Et est-ce que vous vous souvenez du pire professeur que vous avez eu? Moi, je me souviens très bien du meilleur prof que j'ai eu, mais j'avoue aussi que je me souviens très bien du pire professeur que j'ai eu. Mon ami, ça fait une centaine d'années de ça, on était au primaire. Puis là, un moment donné, j'étais au primaire, puis c'était à l'époque où tu avais le droit de taper les mains, puis prendre des règles, puis frapper les doigts comme ça, et te mettre comme ça quand tu faisais des bêtises, mettais les doigts de même, puis tu frappais, puis des fois la règle de côté, puis tu sais, des fois, les tapes dans le visage. Je me rappelle, j'avais une grosse récitation à faire là, de poèmes, et tout ça, français, puis tout ça, je m'étais trompé à quelque part, et en plein milieu de la classe, à Badlang, une tape dans le visage, mon ami. Et je me rappelle une fois, un prof, ça c'est le pire prof que je me souviens, et mon ami, c'était une femme, qui était bâtie comme un joueur de football, puis à un moment donné, devant la classe, elle me prit par le dos comme ça, à la taille. Alors moi, je regardais le tableau, j'étais de dos devant la classe. Elle me prit de dos comme ça, elle me levait dans les airs. Alors, vous pouvez imaginer que j'avais les fesses devant toute la classe. Puis là, elle commençait à me taper, mon ami, les fesses devant tout le monde. Hey, mon ami, je ne sais pas, moi, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait le plus mal. C'est d'avoir les tapes sur les fesses ou l'humiliation devant toute la classe. Puis dans ce temps-là, il faisait une chose, il donnait des coups de martinet. Est-ce que quelqu'un connaît ça ici, des martinets? Vous en souvenez, hein? Hey, mon ami, c'est la directrice de l'école, elle nous emmenait, quand tu faisais vraiment une grosse bêtise, tu t'emmenais dans le bureau du directeur, elle te sortait le martinet, baissait le culotte, elle te donnait des coups, mon ami. Ah, hey! Dieu merci, c'est plus de même, hein? Aïe, 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 ça n'a pas de bon sens. Mais je me souviens de mon meilleur prof que j'ai jamais eu. Je me souviens même de son nom. J'étais au primaire, son nom c'était André Boucher. Et puis, hey, il était super fin. Il prenait du temps, vraiment, il prenait du temps. Non seulement enseigner dans la classe, il faisait vraiment un beau travail comme enseignant, mais non seulement ça, il prenait du temps avec les élèves. Il venait me voir, moi j'étais pas mal gêné dans le temps, fait qu'il venait me voir, même dans les couloirs, et tout ça, me demandait comment j'étais. Puis, il était super doux, hyper fin. Il me donnait souvent des mots d'encouragement. Il dit, Normand, tu as fait une bonne journée aujourd'hui, continue, lâche pas. Hey, mon ami, hey, j'avais le goût d'être un meilleur élève avec ce prof-là, il était super smart. Et bien des fois, même dehors, dans la cour, il venait me voir, puis il dit, comment ça va aujourd'hui, Normand? Je n'étais même pas dans sa classe à ce moment-là, j'étais en récréation ou tout ça. Et puis là, il venait me voir, puis il me disait, puis Normand, tu n'as pas l'air bien aujourd'hui. Il passait du temps comme ça avec moi, c'est fou. Et là, à un moment donné, mes parents ont décidé de nous changer d'école. Subitement comme ça, ils nous ont envoyés dans une école privée à Montréal, l'école Pasteur. Alors, du jour au lendemain, là, je me retrouvais, alors que j'étais dans cette classe-là, avec le meilleur prof que j'avais jamais eu, paf, comme ça, sans avoir le temps de dire salut à mes chums, à mes amis. Mes amis, c'est pas si pire parce que tu les vois quand même en dehors, tu restes pas loin et tout ça, puis on s'est vu pendant des années après. Puis, mais là, c'est ton prof, j'ai même pas eu l'occasion de dire à mon prof bonjour. Et ce beau prof-là, ce prof-là qui m'aimait, que j'aimais, même pas eu l'occasion de lui dire que je m'en allais. Et je suis certain, là, si je lui avais dit que je m'en allais, que je quittais, je suis certain qu'il se serait assis avec moi pour me parler et me donner comme, en quelque sorte, son dernier message, un message d'encouragement pour mon avenir, surtout le fait qu'il aurait su qu'on se verrait peut-être plus jamais. Puis effectivement, on ne s'est plus jamais revus. Eh bien, aujourd'hui, on va terminer une lettre, la lettre à Timothée. Et c'est un de ces moments-là. C'est un de ces moments-là où, alors que Paul est en train de terminer sa lettre, il va donner son dernier message à quelqu'un qu'il aime. C'est son protégé, Paul est son mentor, mais c'est plus que ça. Ce sont des amis intimes maintenant. Paul avait laissé Timothée dans la ville d'Éphèse s'occuper d'une église, l'église d'Éphèse. Mais voilà les dernières paroles que Paul va donner à son cher Timothée. Paul ne sait pas s'il va survivre. Paul est constamment pourchassé. C'est des temps difficiles pour des chrétiens. Il ne sait même pas s'il va survivre. Il rentre dans une ville. Il ne sait pas s'il va en sortir vivant. Donc, ce dernier chapitre de la lettre de Timothée est très important parce que c'est un message vital, ce dernier message brûlant sur le cœur de Paul qu'il va donner à ce cher Timothée qui l'affectionne tellement. Et en même temps, ce message s'adresse par le Saint-Esprit à chacun d'entre nous. D'accord? Et ça, ce message, que c'est un peu comme si Paul disait à Timothée, tu sais, Timothée, moi, ça se peut qu'on se verra peut-être plus jamais. Ça se peut que je rentre dans une ville et je n'en sorte pas. C'est arrivé plusieurs fois, d'ailleurs, que Paul a subi des fouets, des coups de fouet, il a été amené en prison, etc. Alors, ce sont ses dernières paroles qu'il donne à son protégé. Alors, on va tourner ensemble dans ce message, mais juste avant, courbons-nous juste un instant et prions. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu fais pour nous et pour cette belle famille qui est l'Église de Jésus-Christ, cette famille de Dieu. Seigneur, que cette Église soit l'endroit où on peut entrer et sortir sans se sentir écrasé ou rongé par la culpabilité. Mais en même temps, Seigneur, être un endroit où ton esprit puisse avoir une pleine liberté pour nous convaincre de pécher, là où nous avons besoin d'être amenés sur le bon chemin. Que ce soit un endroit où nous pouvons trouver la grâce et la liberté de pouvoir nous relever et faire mieux. Que nous soyons une place où l'on évite de se pointer du doigt, mais un lieu où les bras sont grand ouverts pour nous accueillir. Un endroit où l'on s'aime, où l'on s'accepte, tout en étant un endroit où l'on s'encourage à avancer et à devenir meilleur en toi, Seigneur. Qu'aujourd'hui soit une telle journée, que l'on puisse sortir d'ici en disant, Seigneur, j'ai besoin de toi. Nous te demandons ces choses, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Tournons ensemble dans 1 Timothée chapitre 6, si vous voulez bien. 1 Timothée 6, verset 6. On va commencer juste avec un verset, et puis, évidemment, on va lire le reste du passage, mais on va juste s'arrêter pour commencer sur le verset 6. C'est juste une portion, d'ailleurs, du verset. On ne lira pas au complet. 1 Timothée 6, 6, qui dit ceci. La piété est pourtant une grande source de profit. On arrête là, d'accord? La piété, notre relation avec Dieu, cette vie consacrée à Dieu, ta communion avec Dieu, est une source de grand profit. Voilà le message que Paul va livrer, qui est sur le cœur de son cœur, qu'il va livrer à Timothée. La piété est une grande source de profit. Maintenant, dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire dans les versets 3 à 5, Paul va parler de l'importance de garder l'enseignement de la parole de Dieu, d'être fidèle à la parole de Dieu et d'être collé au texte de la parole de Dieu. Et là, il va arriver à son message essentiel au verset 6. La piété est une grande source de profit. Maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire avec ça? Bien, notre plus grande richesse, c'est ça qu'il est en train de dire, et c'est vraiment littéralement dans l'original, ça dit méga profit. Ça, c'est la riche, là. Notre plus grande richesse, c'est ça que le message est en train de dire dans tout ce chapitre. Notre plus grande richesse, c'est notre relation avec Dieu. C'est notre méga profit. La plus grande et la plus belle des richesses est celle qui est spirituelle. Et Paul va nous donner l'ingrédient essentiel pour devenir riche sur le plan spirituel. Et c'est la vie de piété, c'est notre relation avec Dieu. Alors, si la piété, c'est notre relation avec Dieu, c'est la plus grande richesse, c'est le méga profit spirituel, la plus grande richesse qu'on puisse avoir. On veut savoir qu'est-ce qui va favoriser cette vie de piété, qu'est-ce qui va contribuer à ma relation avec Dieu. Paul va nous donner quatre mots importants ici, quatre exhortations qui vont contribuer à renforcer puis à développer ta relation avec Dieu. Alors, pour développer ta relation avec Dieu, fuis, quatre mots que Paul emploie, fuis, poursuis, combat et saisis. D'accord? Fuis, poursuis, combat, saisis. Alors, premièrement, fuis le péché. Alors, Paul va énumérer certaines choses ici dans les versets 3, verset 4. Il va en nommer quatre. Quatre choses à fuir comme enfants de Dieu si nous voulons vraiment renforcer, protéger, contribuer à notre relation avec Dieu. Verset 3 dit, « Si quelqu'un enseigne une autre doctrine et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus et à l'enseignement qui est conforme à la piété. » Alors, fuis ces enseignements, fuis ces enseignants aussi qui ne sont pas conformes à l'Évangile. Tous ces enseignements où Jésus n'est pas le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Fuis tout enseignement qui n'élève pas Jésus et son enseignement. Deuxièmement, fuis la controverse. Paul parle de ceux qui ont la maladie de la controverse au verset 4. Troisièmement, fuis ce qui cause des divisions. Verset 4 et 5 qui dit, Paul parle de ceux qui ont la maladie des controverses et des querelles de mots. Il dit, c'est de là que naissent les jalousies, les disputes, les calomnies, les mauvais soupçons, les discussions violentes. Et quatrièmement, et là il va passer plus de temps là-dessus, fuis l'amour de l'argent. Verset 6 dit, la piété est pourtant une grande source de profit, effectivement, quand on se contente de ce que l'on a. En effet, nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous ne pouvons rien emporter. Si donc nous avons de la nourriture et des vêtements, cela nous suffira. Quant à ceux qui veulent s'enrichir, ils tombent dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides et nuisibles qui plongent les hommes dans la ruine et provoquent leur perte. L'amour de l'argent est en effet à la racine de tous les maux. En s'y livrant, certains se sont même égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Quant à toi, homme de Dieu, on pourrait dire femme de Dieu, c'est général ici, fuis ces choses. Certaines personnes dans l'église d'Éphèse enseignaient à tort que si tu menais une bonne vie, si tu faisais des belles choses, des bonnes œuvres, Dieu allait t'enrichir, Dieu allait te faire du bien, Dieu allait te bénir, etc. Alors, en quelque sorte, déjà, ça commençait cette idée d'évangile de prospérité où Dieu te veut riche, Dieu te veut en santé, etc. Maintenant, oui, la piété est une source de grand profit, de méga profit, mais cette richesse, elle est spirituelle, dira Paul. Mais il y en avait ici dans l'Église qui enseignaient ça, à tort. C'est comme si tu viens à Dieu, tu n'as plus aucun problème. Et tristement, on en voit des gens parfois passer à travers l'Église, et ils rentrent dans l'Église pour un certain temps, et ils s'imaginent qu'en venant à l'Église ou venant au Seigneur, se collant au Seigneur, ils n'auront plus de problème. Ça, si tout va bien aller, ils seront en santé, ça va bien aller dans le mariage, etc., il n'y aura plus de problème. Tout va bien aller. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que lorsque l'épreuve frappe, ils ont des difficultés, ils ne peuvent pas subir, ils ne peuvent pas encaisser, ils vont quitter. Ah, si je viens à l'Église, pense comme ça, Dieu va me bénir. Si je prie, j'aurai tout ce que je demande. Et si je fais ce qu'il faut, alors ma compagnie va fleurir, ça va bien aller, je serai riche. Paul dit, tiens-toi loin des personnes et de ces enseignements, des gens qui enseignent ces faussetés. Tiens-toi loin des gens qui enseignent l'Évangile de prospérité. C'est pas juste, c'est pas vrai. C'est pas ça la vie chrétienne. Avez-vous remarqué comment, lorsqu'on arrive devant des difficultés, que tout d'un coup, on a un réveil spirituel pour prier? On commence à prier, et là, quand ça commence à aller bien, tranquillement, on va commencer à se relâcher dans la prière. Pourquoi, tu penses? Mais quand ça nous arrive, souvent, c'est parce qu'on s'imagine que Dieu est comme un génie qui est enfermé dans une bouteille et qui nous donne ce qu'on demande quand on le flatte. Même principe. Paul nous dit, fais attention comment tu te sers de la spiritualité. Ne va pas croire que le message de l'Évangile est simplement un produit dont tu te sers pour avoir ce que tu veux. Parce que lorsque tu vas avoir des problèmes, tu ne seras pas capable de faire face à la musique. Paul parle de l'argent ici, mais il ne parle pas de ce qu'on possède ou ce qu'on ne possède pas. Il parle du désir, de la motivation ici. Il parle de l'amour de l'argent. Paul rappelle à Timothée qu'on est entré dans le monde avec rien. Puis moi, je le sais. J'ai eu 3 enfants, puis je me rappelle comment ils étaient habillés quand ils sont venus au monde. Je me rappelle très bien. Puis je vous dis, là, c'était pas comme... Non, c'était pas... Et c'est la même chose quand on part, quand on quitte. On rentre dans le monde nu, on part nu, c'est fini. Là. On n'amène rien de l'autre côté. Ce que Paul est en train de nous dire, il dit, voici la mentalité que nous avons besoin d'adopter. On vient dans le monde nu, on part nu, et tout ce qui arrive entre les deux est une grâce de Dieu. C'est un bonus. Maintenant, tu vas dire, ouais, bien normalement, moi, je travaille pas mal fort pour gagner ce que j'ai. Je fais des longues heures, etc., puis je travaille très fort pour avoir ce que j'ai. Et puis c'est vrai. On travaille fort pour gagner notre pain. C'est vrai? Mais ce que Dieu veut nous rappeler à travers cette plume de Paul est en train de nous rappeler, écoutez, c'est Dieu qui nous a créés, c'est Dieu qui nous donne la santé pour faire le travail qu'on peut faire, pour gagner ces sous-là. Il veut nous ramener ici d'avoir cette façon de penser. Alors Paul est en train de nous rappeler qu'on dépend de Dieu pour tout ce que nous avons. Alors fuyons l'amour de l'argent. Verset 10 dit « L'amour de l'argent est en effet la racine de tous les maux. » Maintenant, il y a une grande distinction à faire ici. Paul n'est pas contre le matériel. Il n'est pas contre le fait qu'on puisse s'acheter certaines choses. D'ailleurs, la Bible dit de belles choses, de bonnes choses sur l'argent. La Bible va dire de bonnes choses sur les biens matériels aussi et sur la richesse. D'ailleurs, même le verset un peu plus loin, au verset 17, il est dit que Dieu nous donne plein de belles choses afin qu'on puisse en profiter. Alors, ce n'est pas ça qui est négatif. Dieu a créé le monde matériel. C'est une bonne chose de bien profiter du confort matériel et du bien matériel. C'est une bonne chose. Il n'y a rien de mal à posséder des biens. D'ailleurs, remarquez ce que Paul va dire aux gens riches plus loin. Il ne dit pas aux gens riches de cesser d'être riches. Il dit aux gens riches d'être riches aussi en bonnes œuvres. D'ailleurs, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, Abraham était un multimillionnaire, mais il était aussi riche en bonnes œuvres. Tu regardes Job, il y a eu un temps où il était multimillionnaire. Et à cette époque-là, il était aussi riche en bonnes œuvres. C'est l'amour de l'argent qui est le problème. Et là, tu vas me dire, Normand, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je ne suis pas riche, je suis pauvre, je n'ai pas beaucoup d'argent, etc. Mais tu sais quoi? Ça ne change absolument rien. Tu peux avoir l'amour de l'argent que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Mais en plus, il faut être honnête là, et humble et avouer que nous qui vivons en Amérique du Nord, on est quand même riches. Vraiment, là. On a de l'eau, c'est incroyable. Si tu as un robinet chez vous, tu es déjà riche. Tu sais, tu tournes à droite, mon ami, tu as de l'eau froide, c'est ça? Oui. Tourne, tu as de l'eau froide. Et non seulement ça, tu peux même la boire, c'est de l'eau potable. Tu tournes de l'autre côté, à gauche, puis qu'est-ce que tu as? Tu as de l'eau chaude, comme ça. Incroyable. Il y avait même un homme qui a fait une conférence un moment donné, puis qui a dit que si vous faites 30 000 $ canadiens, 30 000 $ par année, vous faites probablement partie des 10 % plus riches dans le monde entier. D'ailleurs, c'est vraiment intéressant parce qu'il y a un site Internet qui s'appelle globalrichlist.com. Vraiment intéressant. Tu t'envoies sur cette liste-là, ce site Internet-là, et ça va te dire comment tu te situes en termes de richesse par rapport aux autres personnes dans le monde entier. Tu rentres deux chiffres. Tu peux rentrer, tu as deux choix. Tu rentres ton salaire annuel, et là, ils vont te dire ton pourcentage par rapport aux autres, et où tu peux donc rentrer ton patrimoine, si tu choisis un ou l'autre. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il te dit le nombre, où est-ce que tu te situes par rapport au monde entier. Par exemple, si tu dis, OK, moi, je fais tant de dollars par année, eh bien, tu es le 7 millionième, 353 052e plus riche du monde entier. C'est fou, là. Puis ça se fait instantané, ça se fait comme ça, là. Alors, c'est vraiment fascinant. On a besoin de se remettre en perspective toute la notion de richesse. Quand on sait qu'il y a plus de 1 milliard de personnes vivent et meurent dans la pauvreté avec moins de 1 $ par jour, puis que 2 milliards d'autres personnes qui vivent avec 2 $ par jour. C'est presque la moitié du monde, imaginez, entier, qui en arrache pour trouver de la nourriture, de l'eau, un abri, puis des soins médicaux, pour la même somme que vous et moi nous allons dépenser pour acheter un café. Bien souvent, on se mesure d'après les autres qui sont autour de nous, qui sont plus à l'aise que nous. Paul veut nous aider à changer notre mentalité sur ce que nous avons et sur tout ce que nous sommes. Il veut nous préserver du piège de l'amour de l'argent et surtout du stress que ça cause. Puis soyons honnêtes, là, quand tu tombes dans ça, là, quand tu glisses dans l'amour de l'argent, ça finit jamais, tu en veux toujours plus. Pas vrai? Ecclésias 5 dit ceci, dit « Celui qui aime l'argent n'en a jamais assez et celui qui aime la richesse n'en profite pas. » C'est encore de la fumée qui s'évanouit. Voici le danger de l'amour de l'argent. Paul va continuer en disant, « Il tombe dans la tentation, dans un piège et dans une foule de désirs stupides. » Quand tu as l'amour de l'argent, là, puis t'es vraiment, là, c'est ton idole, tu vas commencer à faire des bêtises. Moi, je me rappelle d'une personne qui vit ici à Gatineau, il ne vient pas à l'église ici. Mais un gars, écoute, le gars fait 150 000 par année, ça fait 10 ans, puis il n'a jamais fait de rapport d'impôt. 150 000 par année. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé après 10 ans? Hein? Et là, je vous dis, il ne dormait plus, il avait du stress et tout ça, puis là, il fallait comme là, il était avec le gouvernement, puis là, il ne dormait plus. Là. Mais avec l'amour de l'argent, on fait toutes sortes de bêtises. L'argent est un bon serviteur, mais un très pauvre maître. Maintenant, Paul comprend qu'on a des factures, qu'on a des choses à payer, des personnes à nourrir, à habiller. Absolument. Paul ici parle de l'amour de l'argent. D'ailleurs, il y a un autre passage dans Hébreux, chapitre 13, qui dit ceci, « Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours. Je n'aurai peur de rien. Que peut me faire un homme? Si Dieu est avec toi, hein? Et c'est vraiment intéressant ici. Et premièrement, ça parle de contentement. Puis le contentement, c'est une attitude. C'est une façon de penser qui comprend que l'argent est relatif quand on compare à ce grand Dieu que nous avons. Le contentement ne signifie pas que je ne dois pas chercher de promotion ou avoir de meilleurs salaires. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Le contentement, c'est une façon de penser. D'ailleurs, Paul a connu la richesse puis a connu la pauvreté. Et dans les deux bords, il vivait dans le contentement. Mais il y avait de la richesse un temps. Il était très riche à un moment donné. Mais il vivait dans le contentement. Dans les deux, nous lisons par exemple dans Philippiens qui dit ceci, chapitre 4, Paul qui dit « Je sais vivre dans la pauvreté et je sais vivre dans l'abondance. Partout et en toutes circonstances, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans le besoin. » Pourquoi? Verset 13. « Je peux tout par celui qui me fortifie. » Répétez ça avec moi parce que vous avez besoin de le répéter là, puis de ça, que ça rentre là-dedans. Là. « Je... » Ça s'en vient, ça s'en vient. Une autre fois, très fort. Voyez-vous, l'apôtre Paul, sa force, son assurance et sa tranquillité ne venaient pas de son compte en banque. Ça venait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'appuyait sur le Seigneur. Paul a été riche, puis il dit, « J'étais heureux, j'étais pauvre. » Et il pouvait s'épanouir aussi dans ça. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux être riche et avoir cet état d'esprit qui comprend que tout vient de Dieu. D'ailleurs, si on revient au passage que nous avons lu tantôt dans Hébreux, dit ceci, Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, « Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. » Ce passage que nous voulons lire ici dans Hébreux nous montre que le contentement se fonde sur le caractère de Dieu, sur sa présence constante, que Dieu ne change pas, on peut s'appuyer sur lui, on peut se coller à lui et il ne nous délaissera pas. Il sera toujours avec nous. C'est un texte qui provient en passant de l'Ancien Testament. C'est une citation de l'Ancien Testament. C'est comme si Dieu était en train de dire, « Tu vois mon peuple dans l'Ancien Testament, là? Tu vois mon peuple comment j'ai pris soin dans le désert pendant plus de 40 ans. Je les ai nourris à travers tout ce désert où il n'y avait pas d'eau. Je leur ai donné des dizaines de millions de gallons par jour parce qu'il y avait des millions de personnes. Je les ai nourris, j'en ai pris soin pendant plus de 40 ans pour les emmener comme j'avais promis dans la terre promise. » Tu vois ça? Rappelle-toi ça. Tu as vu comment j'étais fidèle avec eux autres, comment j'ai pris soin de mes enfants. Je vais faire la même chose avec toi. C'est pour ça. Et c'est ça la conclusion de ce verset-là. C'est pour ça que je peux dire avec assurance, au verset 6, « Le Seigneur est mon secours. » Littéralement, dans le grec, c'est « mon aide ». Dieu est mon aide. Dieu va t'aider. Dis-le donc à ton voisin, il a besoin d'entendre. Dieu va t'aider. Oui, Dieu va t'aider. Nous n'avons peur de rien, car nous savons que le même Dieu qui ne change pas, qui a été fidèle et puissant à prendre soin de son peuple dans l'Ancien Testament, va prendre soin de toi. Il est ton aide. Maintenant, c'est donc quand on fuit le péché, qu'on entretient, on protège, on nourrit, on fait grandir notre relation avec Dieu. Mais deuxièmement, on veut poursuivre aussi la sainteté. Donc, comme enfant de Dieu, il y a des choses qu'on doit fuir, mais on ne doit pas juste fuir certaines choses, on veut poursuivre d'autres choses. Et là, ça parle, Paul va parler de valeurs spirituelles, des belles valeurs chrétiennes, lesquelles vont contribuer à préserver et enrichir ta relation avec Dieu. Madame Paul en mentionne 6 ici, premièrement la justice, c'est la dimension horizontale, c'est les relations humaines avec les autres, d'être bon avec les autres, d'être juste, pas être croche avec les autres, c'est de chercher à être juste, à faire le bien, à cultiver de bonnes relations avec les autres. Deuxièmement, la piété. Et ça, c'est vraiment vertical, c'est avec ta relation avec Dieu. C'est ce qui est le plus important. D'ailleurs, Alex avait déjà prêché là-dessus, 1 Timothée 4:8. La piété est utile à tout. La foi, il est question ici de fidélité, de croire Dieu, de lui faire confiance. L'amour aussi. L'amour parle de notre attitude les uns envers les autres, agir avec amour, avec bonté, avec patience. Cinquièmement, la persévérance, c'est d'être déterminé à ne pas lâcher, pas lancer la serviette, même quand ça s'annonce difficile, puis on est dans l'épreuve. Sixièmement, la douceur. La douceur, c'est vraiment la force et la puissance contrôlée. C'est ça, la puissance. Ce n'est pas la faiblesse, la douceur. Je dis patience, mais c'est la douceur, c'est de la puissance contrôlée. Comme un cheval qui est puissant, là, mais qui est dompté, qui se contrôle. Et c'est la même chose, c'est la douceur. C'est cette tendresse, c'est d'être patient. C'est la maîtrise de soi dans nos relations les uns avec les autres. Savoir se contenir, se tenir. Alors, nous sommes donc appelés à fuir le péché, à poursuivre la sainteté, mais aussi à combattre le bon combat de la foi. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. C'est une expression qui porte sur l'importance pour nous de protéger, de défendre la parole et la vérité de la parole de Dieu. Parce qu'il se glissait des erreurs, des fausses doctrines, des faux enseignements dans l'église d'Éphèse, et Paul est en train de dire à Timothée, écoute, c'est absolument essentiel que tu protèges l'enseignement de la parole de Dieu, et parce que l'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité qui est la parole de Dieu. Mais c'est aussi un encouragement à ne pas se laisser influencer par les valeurs du monde et quitter la foi, mais bien de combattre pour rester fidèle jusqu'au retour du Seigneur Jésus. D'ailleurs, c'est Paul qui dira lui-même dans la prochaine lettre qui va suivre, dans 2 Timothée 4, 6, il dit, le moment de mon départ approche. Il est sur le bord de partir, de quitter. Il dit, le moment de mon départ approche. Désormais, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, écoutez bien ceci, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Savez-vous que vous aimez le Seigneur? Vous voulez marcher avec le Seigneur? Tu combats pour la foi? Il y a une couronne qui t'attend. Dieu va te donner une couronne. Alors, pour développer notre relation avec Dieu, on fuit le péché, on poursuit la sainteté, on combat le bon combat et de la foi, et on saisit la vie éternelle. Ça, c'est vraiment étrange. Paul qui parle à Timothée, puis il dit « saisis la vie éternelle ». Pourtant, Timothée lui-même était né de nouveau, il avait déjà la vie éternelle. D'ailleurs, même Paul va dire au verset 12 « c'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as été fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins ». Et là, ça parle de son baptême. Donc, non seulement Timothée était né de nouveau, mais il s'est fait baptiser devant plusieurs personnes, donner son témoignage et tout ça. Mais comment ça se fait que Paul va l'exhorter à lui, qui a déjà la vie éternelle, de saisir la vie éternelle? Le mot original ici, saisir, c'est un mot très fort, même à la limite violent, c'est un mot très intense. C'est le même mot que va être employé pour Jésus lorsqu'il va empoigner Pierre qui entre dans l'eau, qui est en train de couler puis de perdre sa vie. Et Pierre crie puis dit « Sauve-moi, Seigneur! » Vous savez, quand Pierre a eu cette brillante idée de vouloir marcher sur l'eau, et puis là, il commence, puis il marche, puis il commence à couler. Là, Jésus l'accroche et ça dit « il l'a empoigné pour l'emmener dans la barque ». Et c'est le même mot qui est employé ici, « saisit la vie éternelle ». C'est le même mot qu'on va voir aussi dans Actes 21-30, où toute la ville est dans l'agitation, puis le peuple court et puis va s'emparer de Paul pour le traîner puis le sortir du temple. Tu sais, c'est l'idée de empoigner, tirer, et c'est un mot très fort. Et ce que Paul dit à Timothée, « saisis, empoigne la vie éternelle, pogne-la, prends-la, vas-y, saisis-la. » Paul exhorte donc à saisir la vie éternelle, et c'est ça qu'il nous exhorte ici. L'idée est de s'emparer finalement de toute la richesse de la vie éternelle. Il s'agit de s'en emparer, de vivre pleinement notre vie éternelle, cette relation que nous avons avec Dieu. C'est d'en profiter au max, c'est de marcher dans le tapis, mon ami. Au fond, on y va, on roule dans notre vie chrétienne. On y va à fond. C'est vivre en cherchant à connaître Dieu de plus en plus, à connaître Jésus de plus en plus. Saisir la vie éternelle, c'est vivre dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est vivre dans la puissance du Saint-Esprit pour mener ta vie chrétienne. C'est de marcher dans la plénitude du Saint-Esprit. C'est constamment se rappeler que nos péchés sont pardonnés en Jésus. C'est vivre sachant que nous avons la paix maintenant. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu en Jésus. C'est vivre sachant que nous avons les fruits de l'Esprit, qui est l'amour. C'est tout disponible, la patience, la douceur, la maîtrise de soi. C'est disponible par le Saint-Esprit qui habite maintenant en nous. C'est vivre sachant qu'il y a de la joie à servir la famille de Dieu. C'est vivre à tous les jours sachant que Dieu nous aime et qu'il est avec nous et qu'il va nous aider. C'est vivre en nous rappelant que Jésus est notre avocat auprès du Père puis qu'il intercède pour toi et pour moi pour nous aider à nous relever et avancer dans notre vie chrétienne. C'est vivre en nous rappelant que Dieu nous a donné des dons puissants pour le servir. C'est vivre sachant que tous nos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ. On n'a pas à traîner ce sentiment de culpabilité perpétuelle. Nous sommes pardonnés par le sacrifice qui a été offert à la croix par Jésus-Christ, que nous voulons célébrer avec le repas du Seigneur ce matin. C'est vivre sachant que lorsque je pèche, je peux revenir tout de suite au Seigneur et il va pardonner tous mes péchés. Je serai pur devant Dieu. C'est vivre sachant que notre vraie richesse nous attend là-haut. Jésus nous prépare une place et un jour nous serons avec lui et il n'y aura plus de larmes, plus de douleurs, plus de souffrances, plus de maladies, plus rien de ça. C'est ça, saisir la vie éternelle, de vivre à la lumière de l'éternité, ce qui nous attend, les couronnes, les récompenses et notre cher Sauveur qui nous attend au ciel. Est-ce que j'entends des « Amen » ? Hey, on donne une main au Seigneur, une ovation même pour la richesse que nous avons en Jésus. Pas vrai? Tu es riche. Dis-le à ton voisin, tu es riche. Amen. On est riche en Jésus-Christ. Autant de choses à saisir et à tenir dans la joie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors laisse-moi te dire, ta plus grande richesse, ton méga profit, c'est ta relation avec Dieu. Alors quoi? Fuis. Fuis le péché. Poursuis la sainteté. Combat le bon combat de la foi et saisis la vie éternelle. Parce que Jésus revient bientôt. Regardez bien ce que Paul va dire, verset 13. « Je te recommande devant Dieu, verset 14, de garder le commandement reçu en vivant sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus. » Cette apparition, le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, la révélera au moment voulu. Il est le seul à posséder l'immortalité, lui qui habite une lumière inaccessible et qu'aucun homme n'a vu ni ne peut voir. À lui, l'honneur et la puissance éternelle. Amen.
Amen.
Amen. Gloire à Dieu. On veut célébrer le Seigneur et tout ce qu'il a fait, tout ça est possible. Grâce à la croix, au sacrifice de Jésus-Christ. Alors moi, j'inviterai les frères ici à venir avancer, ceux qui ont été assignés pour distribuer les éléments de la Sainte-Cène, du repas du Seigneur, et on va célébrer ensemble tout ce que nous avons en Jésus-Christ, grâce à son sacrifice.